Daria Alexandrovna, tout en craignant d'être désagréable aux Lévin qui redoutaient un rapprochement avec Vronsky, tenait à aller voir Anna pour lui prouver que son affection n'avait pas varié. Le petit voyage qu'elle projetait offrait certaines difficultés, et afin de ne pas gêner son beau-frère, elle voulut louer des chevaux au village. Dès que Lénine en fut averti, il vint adresser de vifs reproches à sa belle-sœur. « Mais pourquoi t'imagines-tu me faire de la peine en allant chez Vronsky ? Quand d'ailleurs cela serait, tu m'affligerais plus encore en te servant d'autres chevaux que des miens. Ceux qu'on te louera ne pourront jamais faire 70 verstes d'une traite. » Dolly finit par se soumettre, et au jour indiqué, Lévin lui ayant fait préparer un relais à mi-chemin, elle se mit en route sous la protection du teneur de livres qu'on avait pour plus de sécurité placé près du cocher en guise de valet de pied. L'attelage n'était pas beau, mais capable de fournir une longue course, et Lévin, outre qu'il accomplissait un devoir d'hospitalité, économisait ainsi à Dolly une dépense lourde dans l'état actuel de ses finances. Le jour commençait à poindre quand Daria Alexandrovna partit. Bercée par l'allure régulière des chevaux, elle s'assoupit et ne se réveilla qu'au relais. Là, elle prit du thé chez le riche paysan où Lévin, en allant chez Sviajeski, s'était autrefois arrêté, et après s'être reposée en bavardant avec le vieillard et les jeunes femmes, elle continua son voyage. Dolly, dans sa vie occupée et absorbée par ses devoirs maternels, avait peu de temps de réfléchir. Aussi, cette course solitaire de 4 heures lui fournit-elle une rare occasion de méditer sur son passé et de le considérer sous ses divers aspects. Elle pensa d'abord à ses enfants, recommandés aux soins de sa mère et de sa sœur. C'était sur celle-ci qu'elle comptait particulièrement. « Pourvu que Macha ne fasse plus de sottises !» Que Grisha n'aille pas attraper quelques coups de pied de cheval et que Lily ne se donne pas d'indigestion, se dit-elle. D'autres préoccupations plus importantes succédèrent à ses soucis du moment. Elle devait changer d'appartement en rentrant à Moscou. Il faudrait rafraîchir le salon. Sa fille aînée aurait besoin d'une fourrure pour l'hiver. Puis vinrent d'autres questions graves. Comment ferait-elle pour continuer convenablement l'éducation des enfants ? Les filles l'inquiétaient peu, mais les garçons. Elle avait pu s'occuper d'elle-même de Grisha cet été, parce que, par extraordinaire, sa santé ne l'en avait pas empêché, mais qu'une grossesse survint. Et elle songea qu'il était injuste de considérer les douleurs de l'enfantement comme le signe de la malédiction qui pèse sur la femme. C'est si peu de choses comparées aux misères de la grossesse. Et elle se rappela sa dernière épreuve en ce genre et la perte de son enfant. Ce souvenir lui remit en mémoire son entretien avec la jeune femme, fille du vieux paysan chez qui elle avait pris le thé. Interrogée sur le nombre de ses enfants, la paysanne avait répondu que sa fille unique était morte pendant le carême. « Tu en es bien triste. Oh non, le grand-père ne manque pas de petits-enfants, et celle-là n'était qu'un souci de plus. »« Que peut-on faire avec un nourrisson sur les bras ? C'est un obstacle à tout. » Cette réponse avait paru révoltante à Dolly dans la bouche d'une femme dont la physionomie exprimait la bonté. « En résumé, pensa-t-elle, se rappelant ses 15 années de mariage, ma jeunesse s'est passée à avoir mal au cœur, à me sentir maussade, dégoûtée de tout et à paraître hideuse. Car si notre jolie Kitty en l'est dit pour le moment, combien n'ai-je pas dû être affreuse ? Et elle tressaillit en songeant à ses souffrances, à ses longues insomnies, aux misères de l'allaitement, à l'énervement et à l'irritabilité qui en résultaient. Puis c'étaient les maladies des enfants, les mauvais penchants à combattre, les frais d'éducation, le latin et ses difficultés, et pique tout, la mort. Son cœur de mère saignait cruellement encore de la perte de son dernier né, enlevé par le croup. Elle se rappela sa douleur solitaire devant ce petit front blanc, entouré de cheveux frisés, de cette bouche étonnée et entr'ouverte au moment où retombait le couvercle du cercueil rose brodé d'argent. Elle avait été seule à pleurer, et l'indifférence générale lui avait été une douleur de plus. Et pourquoi tout cela? Quel sera le résultat de cette vie pleine de soucis, si ce n'est une famille pauvre et mal élevée? Qu'aurais-je fait cet été si les Lévites ne m'avaient pas invité à venir chez eux? Mais, quelque affectueux et délicat qu'ils soient, ils ne pourront recommencer, car à leur tour ils auront des enfants qui rempliront la maison. Papa s'est presque dépouillé pour nous, lui non plus ne pourra pas m'aider. Comment arriverai-je à faire des hommes de mes fils? Faudra chercher des protections, m'humilier, car je ne puis compter sur Stiva. Ce que je puis espérer de plus heureux, c'est qu'il ne tourne pas mal et que des souffrances, mais que de souffrances pour en arriver là. Les paroles de la jeune paysanne avaient du vrai dans leur cynisme naïf. Approchons-nous, Philippe, demanda-t-elle au cocher pour écarter ses pénibles pensées. Oh, il nous reste 7 verstes à partir du village. La calèche traversa un petit pont où les moissonneuses, la faucille sur l'épaule, s'arrêtèrent pour la regarder passer. Tous ces visages semblaient gais, contents, pleins de vie et de santé. Chacun vit et jouit de l'existence, se dit Dolly, tandis que la vieille calèche montait au trot une petite côte. Moi seul me fais l'effet d'une prisonnière momentanément mise en liberté. Ma sœur Nathalie, Varinka, ses femmes, Anna, savent toutes ce que c'est que l'existence. Moi, je l'ignore. Et puis pourquoi, quiche-t-on Anna? Si je n'avais pas aimé mon mari, j'en aurais fait autant. Elle a voulu vivre, n'est-ce pas un besoin que Dieu nous a mis au cœur? Moi-même, n'ai-je pas regretté d'avoir suivi ses conseils au lieu de me séparer de Stiva? Qui sait? J'aurais pu recommencer l'existence, aimer, être aimé. Ce que je fais est-il plus honorable? Je supporte mon mari parce qu'il m'est nécessaire, voilà tout. J'avais encore quelques beautés alors. Et elle voulut tirer de son sac un petit miroir de voyage, mais la crainte d'être surprise par les deux hommes sur le siège l'arrêta. Sans avoir besoin de se regarder, elle se rappela qu'elle pouvait plaire encore et pensa à l'amabilité de Serge Ivanitch, au dévouement du bon Touratsvin, qui, par amour pour elle, l'avait aidé à soigner ses enfants pendant la scarlatine. Elle se rappela même un tout jeune homme sur le compte duquel Stiva la taquinait. Et les romans les plus passionnés, les plus invraisemblables, se présentèrent à son imagination. Anna a eu raison, elle est heureuse. Elle fait le bonheur d'un autre. Elle doit être belle, brillante, pleine d'intérêt pour toute chose, comme par le passé. Un sourire effleura les lèvres de Dolly, poursuivant en pensée un roman analogue à celui d'Anna, dont elle serait l'héroïne. Elle se représenta le moment où elle avouait tout à son mari et se mit à rire en songeant à la stupéfaction de Stiva. Le cocher et l'un des paysans assis sur la lisière d'un champ de seigle près de Télègue d'Ételé. « Avance donc, fainéant ! » cria-t-il. Le paysan, qui vint à son appel, un vieillard au dos voûté, les cheveux retenus autour de la tête par une mince lanière de cuir, approcha de la calèche. « La maison seigneuriale, chez le comte, répéta-t-il. Prenez le premier chemin à gauche, vous tomberez dans l'avenue qui y mène. Mais qui demandez-vous, le comte lui-même ? Sont-ils chez eux, mon ami ? Dit Dolly, ne sachant trop comment demander Anna. Oui, ils doivent y être, car il arrive du monde tous les jours, dit le vieux, désireux de prolonger la conversation. Et vous autres, qui êtes-vous ? Nous venons de loin, fit le cocher. Ainsi nous approchons. À peine allait-il repartir que des voix crièrent. Arrête, arrête, les voici eux-mêmes. On voyait quatre cavaliers et un tilbury débouchant sur la route. C'était Vronsky, Anna, Veslovski et un groom à cheval. La princesse Barbe et Sviavjeski suivaient en voiture. Ils étaient tous venus pour voir fonctionner une moissonneuse à vapeur. Anna, sa jolie tête coiffée d'un chapeau d'homme, d'où s'échappaient les mèches frisées de ses cheveux noirs, montait avec aisance un cob anglais. Dolly, d'abord scandalisée de l'avoir à cheval, parce qu'il y attachait une idée de coquetterie peu convenable dans une situation fausse, fut si frappée de la parfaite simplicité de son ami que ses préventions s'évanouirent. Veslovski accompagnait Anna sur un cheval de cavalerie plein de feu. Dolly, en le voyant, ne put réprimer un sourire. Vronsky les suivait sur un pur sang bai monté, et le groom fermait la marche. Le visage d'Anna s'illumina en reconnaissant la petite personne blottie dans un coin de la vieille calèche, et poussant un cri de joie, elle mit son cob au galop, sauta légèrement de cheval sans l'aide de personne, en voyant Dolly descendre et ramassant sa jupe, courut au-devant d'elle. « Dolly, quel bonheur inespéré !» dit-elle, embrassant la voyageuse et la regardant avec un sourire reconnaissant. « Tu ne saurais croire le bien que tu me fais !»« Alexis !» dit-elle en se tournant vers le comte, qui lui aussi avait mis pied à terre. « Quel bonheur !» Vronsky souleva son chapeau gris et s'approcha. « Votre visite nous rend bien heureux, » dit-il avec un accent particulier de satisfaction. Vasinka agita son béret sans quitter sa monture. « C'est la princesse Barbée, » dit Fianna, répondant à un regard interrogateur de Dolly en voyant approcher le tilbury. « Ah !» répondit celle-ci, dont le visage exprima involontairement un certain mécontentement. La princesse Barbe, une tante de son mari, ne jouissait pas de la considération de sa famille. Son amour du luxe l'avait mise sous la dépendance humiliante de parents riches, et c'était à cause de la fortune de Vronsky qu'elle s'était maintenant accrochée à Anna. Celle-ci remarqua la désapprobation de Dolly et rougit en trébuchant sur son amazone. L'échange de politesse entre Daria Alexandrovna et la princesse fut assez froid. Sviajeski s'informa de son ami Lévin, l'original, et de sa jeune femme, puis, après un regard jeté sur la vieille calèche, il offrit aux dames de monter en tilbury. « Je prendrai ce véhicule pour rentrer, et la princesse vous ramènera parfaitement, elle conduit très bien. » « Oh non !» interrompit Anna. « Restez où vous êtes, je rentrerai avec Dolly. » Jamais Daria Alexandrovna n'avait rien vu d'aussi brillant que ses chevaux et cet équipage. Mais ce qui la frappa plus encore, ce fut l'espèce de transfiguration d'Anna, qu'un œil moins affectueusement observateur que le sien n'eût peut-être pas remarqué. Pour elle, Anna resplendissait de l'éclat de cette beauté fugitive que donne à une femme la certitude d'un amour partagé. Toute sa personne, depuis les fossettes de ses joues et le pli de sa lèvre, jusqu'à son ton amicalement brusque lorsqu'elle permit à Veslovski de monter son cheval, respirait une séduction dont elle semblait avoir conscience. Les deux femmes éprouvèrent un moment de gêne quand elles furent seules. Anna se sentait mal à l'aise sous le regard questionneur de Dolly, et celle-ci, depuis la réflexion de Swiajewski, était confuse de la pauvreté de son équipage. Les hommes sur le siège partageaient cette impression, mais Philippe, le cocher, résolu de protester, eut un sourire ironique en examinant le trotteur noir attelé au Tilbury. « Oh, cette bête-là pouvait être bonne pour le promenage, mais incapable de fournir 40 verses par la chaleur, » décida-t-il intérieurement en manière de consolation. Les paysans quittèrent leur télègue afin de contempler la rencontre des amis. « Ils sont bien aises tout de même de se revoir, » remarqua le vieux. « Regarde donc cette femme en pantalon, » dit un autre en montrant Veslovski sur la selle de dame. « Dites donc, enfant, nous ne dormirons plus. »« C'est fini, » dit le vieux en regardant le ciel. « Allez, l'heure passée, à l'ouvrage !» Anna, en regardant Dolly fatiguée, ridée et couverte de poussière, fut sur le point de lui dire qu'elle la trouvait maigrie, mais l'admiration pour sa propre beauté qu'elle lut dans les yeux de sa belle-sœur l'arrêta. « Tu m'examines, » dit-elle avec un soupir. « Tu te demandes comment, dans ma position, je puis paraître aussi heureuse. Mais j'avoue que je suis d'une façon impardonnable. Ce qui s'est passé en moi tient de l'enchantement. Je suis sorti de mes misères, comme on sort d'un cauchemar. Et quel réveil, surtout depuis que nous sommes ici !» Et elle regarda Dolly avec un sourire craintif. « Tu me fais plaisir en me parlant ainsi. Je suis heureuse pour toi, » répondit Daria Alexandrovna, plus froidement qu'elle ne l'aurait voulu. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas écrit ?»« Oh, je n'ai pas eu le courage. »« Pas le courage avec moi ?» Si tu savais combien. Et Dolly allait lui parler de ses réflexions pendant le voyage, lorsque l'idée lui vint que le moment était mal choisi. Nous causerons plus tard, ajouta-t-elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette réunion de bâtiments, dirait une petite ville? Demanda-t-elle, désignant des toits verts et rouges apparus au travers des arbres. Dis-moi ce que tu penses de moi, continua Anna sans répondre à sa question. « Je ne pense rien. Je t'aime et t'ai toujours aimé. Lorsqu'on aime ainsi une personne, on l'aime telle qu'elle est, non telle qu'on la voudrait. » Anna détourna les yeux et les ferma à demi, comme pour mieux réfléchir au sens de ses mots. « Si tu avais des péchés, il te serait remis en faveur de ta visite et de ses bonnes paroles, » dit-elle, interprétant favorablement la réponse de sa belle-sœur et tournant vers elle un regard mouillé de larmes. Alors Dolly lui serra silencieusement la main. « Ah, c'est toi ! Sont ceux des indépendances, des écuries, des haras, » répondit-elle à une seconde interrogation de la voyageuse. « Voici où commence le parc. Alexis aime cette terre, qui avait été fort abandonnée, et à mon grand étonnement, il se prend de passion pour l'agronomie. C'est une si riche nature. Il ne touche à rien qu'il n'y excelle. Ce sera un agronome excellent, économe, presque avare. Il ne l'est qu'en agriculture, car il ne compte plus lorsqu'il s'agit de dépenser pour d'autres objets des milliers de roubles. » « Vois-tu ce grand bâtiment ?»« C'est un hôpital, son dada du moment, » dit-elle, avec le sourire d'une femme parlant des faiblesses d'un homme aimé. « Sais-tu ce qui le lui a fait construire ?»« Un reproche d'avarice de ma part à propos d'une querelle avec des paysans pour une prairie qu'il réclamait. » « L'hôpital est chargé de me prouver l'injustice de mon reproche. » « C'est une petitesse, si tu veux, mais je ne l'en aime que mieux. » Voilà le château, il date de son grand-père et rien n'y a été changé extérieurement. C'est superbe, s'écria involontairement Dolly à la vue d'un édifice décoré d'une cotonnade et entouré d'arbres séculaires. Oh, n'est-ce pas ? Oh, du premier étage, la vue est splendide. La calèche roula sur la route unie de la cour d'honneur, ornée de massifs d'arbustes, que des ouvriers entouraient en ce moment de pierres grossièrement taillées. On s'arrêta sous un péristyle couvert. « Oh, ces messieurs sont déjà arrivés, » dit Anna, voyant emmener des chevaux de selle. « N'est-ce pas que ce sont de jolies bêtes ? Voilà le cob, mon favori. » « Où est le comte ? » demanda-t-elle à deux laquais en livrée, sortis pour les recevoir. « Ah, les voici, » ajouta-t-elle, en apercevant Vronsky et Veslovski venant à leur rencontre. « Où logerons-nous la princesse ?» demanda Vronsky, en se tournant vers Anna, après avoir baisé la main de Dolly. « Dans la chambre à balcon ? Oh non, c'est trop loin. Dans la chambre du coin, nous serons plus près l'une de l'autre. J'espère que tu resteras quelque temps avec nous, » dit-elle à Dolly. « Un seul jour, c'est impossible. Oh, »« Je l'ai promis à cause des enfants, » répondit celle-ci, troublée de la chétive apparence de son pauvre petit sac de voyage et de la poussière dont elle se sentait couverte. « Oh non, c'est impossible, Dolly, ma chérie, enfin, nous en reparlerons, montons chez toi. » La chambre qui lui fut offerte, avec des excuses, parce que ce n'était pas la chambre d'honneur, avait un ameublement luxueux qui rappela à Dolly les hôtels les plus somptueux de l'étranger. « Combien je suis heureuse de te voir ici, chère amie !» répéta encore Anna, s'asseyant en amazone auprès de sa belle-sœur. « Parle-moi de tes enfants. Tania doit être une grande fille. »« Oh oui !» répondit Dolly, étonnée de parler si froidement de ses enfants. « Nous sommes tous chez les Lévines et très heureux d'y être. »« Oh, si j'avais su que vous ne méprisiez pas !» Je vous aurais tous prié de venir ici. Stiva est un ancien ami d'Alexis, dit Anna en rougissant. Oui, mais nous sommes si bien là-bas, répondit Dolly, confuse. Le bonheur de te voir me fait déraisonner, dit Anna, l'embrassant tendrement. Mais promets-moi d'être franche, de ne rien me cacher de ce que tu penses de moi, maintenant que tu assisteras à ma vie telle qu'elle est. « Ma seule idée, vois-tu, est de vivre sans faire de mal à personne, qu'à moi-même, ce qui m'est bien permis. Nous causerons de tout cela à loisir. Maintenant, je vais passer une robe et t'envoyer ta femme de chambre. » Dolly, restée seule, examina sa chambre en femme qui connaissait le prix des choses. Jamais elle n'avait vu un luxe comparable à celui dont elle était témoin depuis sa rencontre avec Anna. Tout au plus, savait-elle par la lecture de romans anglais, qu'on vivait ainsi en Angleterre, mais en Russie, à la campagne, cela n'existait nulle part. Le lit à sommier élastique, la table de toilette en marbre, les bronzes sur la cheminée, les tapis, les rideaux, tout était neuf et de la dernière élégance. La femme de chambre pimpante qui vint offrir ses services était mise avec beaucoup plus de recherche que Dolly, qui se sentit confuse de sortir devant elle de son sac des menus objets de toilette, notamment une camisole de nuit reprisée et choisie par erreur parmi les plus vieilles. Chez elle, ces raccommodages avaient leur mérite, car ils représentaient une petite économie, mais ils l'humilièrent en présence de cette brillante camériste. Heureusement, celle-ci fut rappelée par sa maîtresse, et à la grande satisfaction de Dolly, Annouchka, l'ancienne femme de chambre d'Anna, qui l'avait accompagnée jadis à Moscou, prit sa place. Annouchka, ravie de revoir Daria Alexandrovna, bavarda tant qu'elle le put sur le compte de sa chère dame et de la tendresse du comte malgré les efforts de Dolly pour l'arrêter. J'ai été élevé avec Anna Arkadievna, elle aime plus que tout au monde. Il ne m'appartient pas de la juger, et le comte est un mari. » L'entrée d'Anna en robe de batiste d'une coûteuse simplicité mit un terme à ses épanchements. Anna avait repris possession d'elle-même et semblait se retrancher derrière un ton calme et indifférent. « Comment va ta fille ?» lui demanda Dolly. « Annie, oh, très bien. Veux-tu la voir ? Je te la montrerai. Oh, nous avons eu bien des ennuis avec sa nourrice italienne, une brave femme, mais si bête. » Cependant, comme la petite lui est très attachée, il a fallu la garder. « Mais qu'avez-vous fait ?» commença Dolly, voulant demander le nom que portait l'enfant. Elle s'arrêta en voyant le visage d'Anna s'assombrir. « L'avez-vous sevré ?»« Non, ce n'est pas là ce que tu voulais dire, » répondit celle-ci, comprenant la réticence de sa belle-sœur. « Tu pensais au nom de l'enfant, n'est-ce pas ?»« Hein, le tourment d'Alexis, c'est qu'elle n'en a pas d'autre que celui de Karénine. » Et elle ferma les yeux à demi, une nouvelle habitude que Dolly ne lui connaissait pas. « Ah, nous reparlerons de tout cela. Viens que je te la montre. » La nursery, une chambre haute, spacieuse et bien éclairée, était organisée avec le même luxe que le reste de la maison. Les procédés les plus nouveaux pour apprendre aux enfants à ramper et à marcher, les baignoires, balançoires, petites voitures, tout y était neuf, anglais et visiblement coûteux. L'enfant, en chemise, assise dans un fauteuil et servie par une fille de service russe, qui partageait probablement son repas, mangeait une soupe dont toute sa petite poitrine était mouillée. Ni la bonne ni la nourrice n'étaient présentes. On entendait dans la pièce voisine le jargon français qui leur permettait de se comprendre. La bonne anglaise parut dès qu'elle entendit la voix d'Anna et se répandit en excuses, quoiqu'on ne lui adressât aucun reproche. C'était une grande femme à boucles blondes qu'elle agitait en parlant, d'une physionomie mauvaise qui déplut à Dolly. À chaque mot d'Anna, elle répondait « Yes, milady, yes, milady ». Quant à l'enfant, ses cheveux noirs, son air de santé et son amusante façon de ramper firent la conquête de Daria Alexandrovna. Sa robe retroussée par derrière, ses beaux yeux regardant les spectatrices d'un air satisfait, comme pour leur prouver qu'elle était sensible à leur admiration, la petite fille avançait énergiquement à l'aide des pieds et des mains, semblable à un joli animal. Mais l'atmosphère de la nursery avait quelque chose de déplaisant. Comment Anna pouvait-elle garder une bonne d'un extérieur aussi peu respectable? Cela tenait-il à ce qu'aucune personne convenable n'eût consenti à entrer dans une famille irrégulière? Dolly crut remarquer également qu'Anna était presque une étrangère dans ce milieu. Elle ne put trouver aucun des joujoux de l'enfant, et chose bizarre, elle ne savait pas même le nombre de ses dents. Bon, « je me sens inutile ici, » dit Anna en sortant, relevant la traîne de sa robe pour ne pas accrocher quelques jouets. « Quelle différence avec l'aîné !»« J'aurais cru au contraire, » commença Dolly timidement. « Oh non ! Ah, tu sais que j'ai revu Serge !» dit-elle, regardant fixement devant elle, comme si elle eût cherché quelque chose dans le lointain. « Mais je suis comme une créature mourant de faim, qui se trouverait devant un festin et ne saurait par où commencer. Tu es ce festin pour moi. Avec qui, sinon avec toi, pourrais-je parler à cœur ouvert? Aussi ne te ferai-je grâce de rien quand nous pourrons causer tranquillement. Il faut que je te fasse l'esquisse de la société que tu trouveras ici. D'abord la princesse Barbe. Je sais ton opinion et celle de Stiva sur son compte, mais elle a du bon, je t'assure, et je lui suis très obligé. Elle m'a été d'un grand secours à Pétersbourg, où un chaperon m'était indispensable. Tu ne t'imagines pas combien ma position offrait de difficultés. Mais revenons à nos hôtes. Tu connais Wiajeski, le maréchal du district. Il a besoin d'Alexis, qui, avec sa fortune, peut acquérir une grande influence si nous vivons à la campagne. Puis Tuskevitch, que tu as vu chez Betsy, mais qui a reçu son congé. Comme dit Alexis, c'est un homme fort agréable, si on le prend pour ce qu'il veut paraître. La princesse Barbe le trouve très comme il faut. Enfin, Veselovski, que tu connais aussi, un bon garçon. Il nous a conté sur les Lévines une histoire invraisemblable, ajouta-t-elle en souriant. Il est très gentil et très naïf. Je tiens à toute cette société, parce que les hommes ont besoin de distraction et qu'il faut un public à Alexis, afin qu'il ne trouve pas le temps de désirer autre chose. Ah, nous avons aussi l'intendant, un Allemand, qui entend son affaire, l'architecte, le docteur, un jeune homme qui n'est pas absolument nihiliste, mais tu sais, un de ces hommes qui mangent avec leur couteau. Une petite cour, enfin. Eh bien, la voilà, cette Dolly que vous diriez t'en voir, dit Anna, la princesse Barbe, installée devant un métier à broder sur la grande terrasse qui descendait au jardin. Elle ne veut rien prendre avant le dîner, mais tâchez de la faire déjeuner pendant que je vais chercher ces messieurs. La princesse fit un accueil gracieux et légèrement protecteur à Dolly. Elle lui expliqua aussitôt ses raisons pour venir en aide à Anna, qu'elle avait toujours aimée dans cette période transitoire si pénible. Dès que son mari aura consenti au divorce, je me retirerai dans ma solitude, mais actuellement, quelque pénible que cela soit, je reste, et n'imite pas les autres. Elle désignait par là sa sœur, la tante qui avait élevé Anna, et avec laquelle elle vivait dans une constante rivalité. Ils font un ménage parfait, et leur intérieur est si joli, si comme il faut, tout à fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast, puis on se sépare. Chacun fait ce qu'il veut. On dîne à 7 heures. Steve a eu raison de l'envoyer. Il fera sagement de rester en bon terme avec lui. Le comte est très influent par sa mère. Et puis il est fort généreux. On t'a parlé de l'hôpital ? Oh, ce sera admirable. Tout vient de Paris. Cette conversation fut interrompue par Anna qui revint sur la terrasse, suivie des messieurs qu'elle avait trouvés dans la salle de billard. Le temps était superbe. Les moyens de se divertir ne manquaient pas, il restait plusieurs heures à passer avant le dîner. Une partie de lawn tennis, prononça Veselovski. Oh, il fait trop chaud. Faisons plutôt un tour dans le parc et promenons Daria Alexandrovna en bateau pour lui montrer le paysage, dit Vronsky. Veselovski et Tuskevitch allèrent préparer le bateau, et les deux dames, accompagnées du comte et de Sviajeski, suivirent les allées du parc. Dolly, loin de jeter la pierre à Anna, était disposée à l'approuver. Et ainsi qu'il arrive aux femmes irréprochables que l'uniformité de leur vie lasse quelquefois, elle enviait même un peu cette existence coupable, entrevue à distance. Mais transportée dans ce milieu étranger, parmi ses habitudes d'élégance raffinée qui lui étaient inconnues, elle éprouva un véritable malaise. D'ailleurs, tout en excusant Anna, qu'elle aimait sincèrement, la présence de celui qui l'avait détournée de ses devoirs la froissait, et le chaperonnage de la princesse Barbe, pardonnant tout parce qu'elle partageait le luxe de sa nièce, lui semblait odieux. Vronsky en aucun temps ne lui avait inspiré de sympathie, elle le croyait fier, et ne lui voyait d'autre raison pour justifier sa fierté que la richesse. Malgré tout, il lui imposait, en qualité de maître de maison, et elle se sentait humiliée devant lui comme devant la femme de chambre en tirant la camisole rapiécée de son sac, n'osant guère lui faire un compliment banal sur la beauté de son installation. Elle était assez gênée de trouver un sujet de conversation en marchant à son côté. Faute de mieux, cependant, elle risqua quelques paroles d'admiration sur l'aspect du château. « Oui, l'architecture en est d'un bon style, » répondit le comte. « La cour d'honneur était-elle ainsi dessinée autrefois ? Oh non ! Si vous l'aviez vue au printemps ! Et peu à peu, d'abord froidement, puis avec entrain, il fit remarquer à Delis les divers embellissements dont il était l'auteur. Les éloges de son interlocutrice lui causèrent un véritable plaisir. Oh, « Si vous n'êtes pas fatigué, nous pourrons aller jusqu'à l'hôpital, » dit-il en regardant Delis pour s'assurer que cette proposition ne l'ennuyait pas. « Veux-tu, Anna ?»« Certainement, » répondit celle-ci, « mais il ne faut cependant pas laisser ces messieurs se morfondre dans le bateau. Il faut les prévenir. » Mais c'est un monument qu'il élève à sa gloire, dit-elle en s'adressant à Delis, avec le même sourire que lorsque pour la première fois elle lui avait parlé de l'hôpital. Une fondation capitale, dit Sviajski, et aussitôt, pour n'avoir pas l'air d'un flatteur, il ajouta, je m'étonne que vous, si préoccupé de la question sanitaire, ne l'ayez jamais été de celle des écoles. « Oh, c'est devenu si commun !» répondit Vronsky. « Et puis je me suis laissé entraîner. Par ici, mesdames !» Et il les conduisit par une allée latérale. Delis, en quittant le jardin, se trouva dans un grand édifice en briques rouges, d'une architecture assez compliquée et dont le toit étincelait au soleil. Une autre construction s'élevait à côté. « L'ouvrage avance rapidement, » remarqua Sviajski. « La dernière fois que je suis venu, le toit n'était pas encore posé. »« Oh, ce sera terminé pour l'automne, car l'intérieur est presque achevé, » dit Anna. « Et que construisez-vous de nouveau ?»« Un logement pour le médecin et une pharmacie, » répondit Vronsky. Et voyant s'approcher l'architecte, il alla le rejoindre en s'excusant auprès des dames. L'entretien fini, il offrit à Delis de visiter l'intérieur du bâtiment. Un large escalier de fonte conduisait au premier étage, où d'immenses fenêtres éclairaient de belles chambres aux murs recouverts de stuc, dont les parquets restaient seuls à terminer. Vronsky expliqua la distribution des pièces, le système de ventilation et de chauffage, fit admirer aux visiteurs les baignoires en marbre et les lits à sommier, les brancards pour transporter les malades et les fauteuils roulants. Sviajski et surtout Delis, étonnés de tout ce qu'elle voyait, faisaient de nombreuses questions et ne dissimulaient pas leur admiration. Cet hôpital sera le seul de son genre en Russie, remarqua Sviajski, très capable d'apprécier les perfectionnements introduits par le comte. Delis s'intéressa à tout. Vronsky, heureux de l'approbation qu'on lui témoignait et plein d'une animation sincère, lui fit une impression excellente. « Il est vraiment bon et digne d'être aimé, » pensa-t-elle. Et elle comprit Anna. « La princesse doit être fatiguée et le chevaux ne l'intéresse peut-être guère, » fit remarquer Vronsky à Anna, qui proposait de montrer à Delis le haras où Sviajski voulait voir un étalon. « Allez, moi je ramènerai la princesse à la maison. Si vous le permettez, » ajouta-t-il en s'adressant à Delis, « nous causerons un peu, chemin faisant. » « Bien volontiers, je ne me connais pas en chevaux, » répondit celle-ci, comprenant à la physionomie de Vronsky qu'il voulait lui parler en particulier. Effectivement, lorsqu'Anna se fut éloignée, il dit en regardant Delis de ses yeux souriants, « Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, en vous croyant une sincère amie d'Anna ?» Et il ôta son chapeau pour s'essuyer le front. Dolly fut prise d'inquiétude. Qu'allait-il lui demander? De venir chez eux avec ses enfants, de former un cercle à Anna quand elle viendrait à Moscou? Peut-être allait-il lui parler de Kitty ou de Veslovski. Anna vous aime tendrement, dit le comte après un moment de silence. Prêtez-moi l'appui de votre influence sur elle. Dolly considéra le visage sérieux et énergique de Vronsky sans répondre. Si de toutes les amies d'Anna, vous avez été la seule à venir la voir, je ne compte pas la princesse Barbe. Ce n'est pas, je le sais bien, que vous jugiez notre situation normale. C'est que vous aimez assez Anna pour chercher à lui rendre cette situation supportable. Ai-je raison? Oui, mais personne ne ressent plus cruellement que moi les difficultés de notre vie, dit Vronsky, s'arrêtant et forçant Dolly à en faire autant. Et vous l'admettrez aisément si vous me faites l'honneur de croire que je ne manque pas de cœur. Certainement, mais ne vous exagérez-vous pas ces difficultés, dit Dolly, touché de la sincérité avec laquelle il lui parlait. Dans le monde, cela peut être pénible, c'est l'enfer. Rien ne peut vous donner l'idée des tortures morales qu'a subi Anna à Pétersbourg. Mais ici, et puisque ni elle ni vous n'éprouvez le besoin d'une vie mondaine, quel besoin puis-je en avoir? S'écria Vronsky avec mépris. Vous vous en passez facilement et vous vous en passerez peut-être toujours. Quant à Anna, d'après ce qu'elle a eu le temps de me dire, elle se trouve parfaitement heureuse. Et, tout en parlant, Dolly fut frappée de l'idée qu'Anna avait pu manquer de franchise. « Oui, mais ce bonheur durera-t-il ? » dit Vronsky. « J'ai peur de ce qui nous attend dans l'avenir. Avons-nous bien ou mal agi ? Le sort en est jeté, nous sommes liés pour la vie. Nous avons un enfant et nous pouvons en avoir d'autres auxquels la loi réserve des sévérités qu'Anna ne peut pas prévoir, parce que, après avoir tant souffert, elle a besoin de respirer. Enfin, ma fille est celle de Karénine, dit-il en s'arrêtant devant un banc rustique où Dolly s'était assise. Qu'il me naisse un fils demain, ce sera toujours un Karénine qui ne pourra hériter ni de mon nom ni de mes biens. Comprenez-vous que cette pensée me soit odieuse? Eh bien, Anna ne veut pas m'entendre, je l'irrite. Et voyez ce qui en résulte. J'ai ici un but d'activité qui m'intéresse, dont je suis fier. Ce n'est pas un pis-aller, bien au contraire, mais pour travailler avec conviction, il faut travailler pour d'autres que pour soi, et je ne puis avoir de successeur. Concevez les sentiments d'un homme qui sait que ses enfants et ceux de la femme qu'il adore ne lui appartiennent pas et qu'ils ont pour père quelqu'un qui les hait et ne voudra jamais les connaître. N'est-ce pas horrible ? Il se tut en proie à une vive émotion. Mais que peut faire Anna ? Vous touchez au sujet principal de notre entretien, dit le comte, cherchant à reprendre du calme. Anna peut obtenir le divorce. Votre mari y avait fait consentir, monsieur Karénine. Et je sais qu'il ne s'y refuserait pas, même actuellement, si Anna lui écrivait. Cette condition est évidemment une de ces cruautés pharisaïques dont les êtres sans cœur sont seuls capables, car il sait la torture qu'il lui impose. Mais Anna devrait passer par-dessus ses finesses de sentiment. Il y va de son bonheur, de celui des enfants, sans parler de moi. Et voilà pourquoi je m'adresse à vous, princesse, comme à une amie qui pouvait nous sauver. Aidez-moi à persuader Anna de la nécessité de demander le divorce. Bien volontiers, dit Dolly, se rappelant son entretien avec Karénine. Mais comment n'y songe-t-elle pas d'elle-même ? Pensa-t-elle. Et le clignement d'yeux d'Anna lui revint à l'esprit. Cette habitude nouvelle lui sembla coïncider avec des préoccupations intimes qu'elle cherchait peut-être à éloigner d'elle, à effacer complètement de sa vue, si c'était possible. Oui, certainement je lui parlerai, répéta Dolly, répondant au regard reconnaissant de Vronsky. Et ils se dirigèrent vers la maison. Le dîner va être servi et nous nous sommes à peine vus, dit Anna en rentrant cherchant à lire dans les yeux de Dolly ce qui s'était passé entre elle et Vronsky. Je compte sur toi ce soir. Et maintenant, il faut changer de toilette, car nous nous sommes salis dans notre visite à l'hôpital. Dolly sourit, elle n'avait apporté qu'une robe. Mais pour opérer un changement quelconque à sa toilette, elle attacha un nœud à son corsage, mit une dentelle dans ses cheveux et se fit donner un coup de brosse. « C'est tout ce que j'ai pu faire, » dit-elle en riant à Anna, lorsque celle-ci va la chercher après avoir revêtu une troisième toilette. Bon, « nous sommes très formalistes ici, » dit Anna pour excuser son élégance. « Alexis est ravi de ton arrivée. Je crois qu'il s'est épris de toi. » Les messieurs à redingote noire attendaient réunis au salon, ainsi que la princesse Barbe, où l'on passa bientôt dans la salle à manger. Le dîner et le service de table intéressèrent Dolly. En qualité de maîtresse de maison, elle savait que rien ne se fait bien, même dans un ménage modeste, sans une direction, et à la façon dont le comte lui offrit le choix entre deux potages, elle comprit que cette direction supérieure venait de lui. Anna ne s'occupait que de la conversation et s'acquittait de cette tâche avec son tact habituel, cherchant un mot pour chacun, chose difficile avec des convives appartenant à des sphères aussi différentes. Après avoir effleuré diverses questions auxquelles le médecin, l'architecte et l'intendant purent prendre part, la causerie devint plus intime, et Dolly éprouva un vif mouvement de contrariété en entendant Zviazhevski prendre à partie les jugements bizarres de Lévin sur le rôle des machines en agriculture. « Peut-être Monsieur Lévin n'a-t-il jamais vu les machines qu'il critique, autrement je ne m'explique pas son point de vue. »« Un point de vue turc ?» dit Anna en souriant à Veslovski. Oh. « Je ne saurais défendre des jugements que je ne connais pas, » répondit Dolly, toute rouge. « Mais ce que je puis vous affirmer, c'est que Lévin est un homme éminemment éclairé et qu'il saurait vous expliquer ses idées, s'il était ici. »« Oh, nous sommes d'excellents amis, » reprit en souriant Zviazhevski, « mais il est un peu toqué. Ainsi, il considère les Selsvans comme parfaitement inutiles, ne veut pas y prendre part. » Voilà bien notre insouciance russe, s'écria Vronsky. Plutôt que de nous donner la peine de comprendre nos nouveaux devoirs, nous trouvons plus simple de les nier. Je ne connais pas d'homme qui remplisse plus strictement ses devoirs, dit Dolly, irrité du ton de supériorité de son hôte. Pour ma part, je suis très reconnaissant de l'honneur qu'on me fait, grâce à Nikolai Ivanitch, de m'élire juge de paix honoraire. Le devoir de juger les affaires d'un paysan me semble aussi important que tout autre. C'est ma seule façon de m'acquitter envers la société, des privilèges dont je jouis comme propriétaire terrien. Dolly compara l'assurance de Vronsky au doute de Lévin sur les mêmes sujets, et comme elle aimait celui-ci, dans sa pensée, elle lui donna raison. « Ainsi, nous pouvons compter sur vous pour les élections, » dit Zviazhevski. « Il sera peut-être prudent de partir avant le 8, si vous me faisiez l'honneur de venir chez moi, comte. » « Pour ma part, » remarqua Anna, « je suis de l'avis de M. Lévin, quoique probablement pour des motifs différents. Les devoirs publics me semblent se multiplier avec exagération. Depuis 6 mois que nous sommes ici, Alexis fait déjà partie de la tutelle, du jury, de la municipalité, que sais-je encore. Et là où les fonctions s'accumulent à ce point, elles doivent forcément devenir une pure question de forme. Vous avez certainement 20 charges différentes, dit-elle en se tournant vers Zwiajewski. Sous ce ton de plaisanterie, Dolly démêla une pointe d'irritation, et lorsqu'elle vit l'expression résolue de la physionomie du comte et la précipitation de la princesse Barbe à changer de conversation, elle comprit qu'on touchait à un sujet délicat. Après le dîner, qui eut le caractère de luxe, mais aussi de formalisme et d'impersonnalité que Dolly connaissait pour l'avoir rencontré dans des dîners de cérémonie, on passa sur la terrasse. Une partie de lawn tennis fut commencée. Dolly s'y essaya, mais n'y renonça vite, et pour n'avoir pas l'air de s'ennuyer, chercha à s'intéresser au jeu des autres. Vronsky et Zwiajewski étaient des joueurs sérieux. Veslovski, au contraire, jouait fort mal, mais ne cessait de rire et de pousser des cris. Sa familiarité avec Anna déplut à Dolly, qui trouva une affectation d'enfantillage à toute cette scène. Elle se faisait l'effet de jouer la comédie avec des acteurs qui tous lui étaient supérieurs. Un désir passionné de revoir ses enfants, de reprendre ses joues du foyer dont elle avait pensé tant de mal le matin, même, s'emparait d'elle. Aussi résolut-elle de repartir dès le lendemain, quoiqu'elle fût venue dans l'intention de rester une couple de jours. Rentrée dans sa chambre après le thé et une promenade en bateau, elle éprouva un véritable soulagement à se retrouver seule et aurait préféré ne pas voir Anna. Au moment où elle allait se mettre au lit, la porte s'ouvrit et Anna entra, vêtue d'un peignoir blanc. Toutes deux, dans le courant de la journée, sur le point d'aborder une question intime, s'étaient dit « plus tard, quand nous serons seuls ». Et maintenant, il leur sembla qu'elles n'avaient plus rien à se confier. « Que devient Kitty ?» demanda enfin Anna, assise près de la fenêtre et regardant Dolly d'un air humble. « Dis-moi la vérité, m'en veut-elle ?»« Oh non !» répondit Dolly en souriant. « Elle me hait, me méprise. »« Non plus. Mais tu sais, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. »« C'est vrai, » dit Anna en se tournant vers la fenêtre ouverte. « Ai-je été coupable dans tout cela ? » Et qu'appelle-t-on être coupable? Pouvait-il en être autrement? Croirais-tu possible de n'être pas la femme de Stiva? Je ne sais que te répondre, mais toi, Kitty est-elle heureuse? Son mari, assure-t-on, est un excellent homme. Ah, c'est trop peu dire, je n'en connais pas de meilleur. Ah, tant mieux. Mais parle-moi de toi, dit Dolly, j'ai causé avec... Elle ne savait comment nommer Vronsky. « Ah, avec Alexis, oui, je me doute de votre conversation. Voyons, dis-moi ce que tu penses de moi, de ma vie. » Je ne puis ainsi te répondre d'un mot. Tu n'en peux juger complètement parce que tu nous vois entourés de monde, tandis qu'au printemps nous étions seuls. Ce serait le bonheur suprême pour moi que de vivre ainsi à deux. Mais je crains qu'ils ne prennent l'habitude de quitter souvent la maison. Et alors, figure-toi ce que serait la solitude pour moi. « Oh, je sais ce que tu vas dire, » ajouta-t-elle en voyant s'asseoir auprès de Dolly. « Certainement, je ne le retiendrai pas de force, mais aujourd'hui ce sont des courses, demain des élections. Et moi, pendant ce temps, de quoi avez-vous causé ensemble ?» « Oh, d'un sujet que j'aurais abordé avec toi sans qu'il m'en parlât. De la possibilité de rendre ta situation régulière. Tu sais ma manière de voir à ce sujet, mais enfin, mieux vaudrait le mariage. C'est-à-dire le divorce. Betsy Tverskoy m'a fait la même observation. Oh, ne crois pas que j'établisse de comparaison entre vous. C'est la femme la plus dépravée qui existe. Mais enfin, que t'a-t-il dit ? Mais qu'il souffre pour toi et pour lui. Si c'est de l'égoïsme, il vient d'un sentiment d'honneur. Le comte voudrait légitimer sa fille, être ton mari, avoir des droits sur toi. Mais quelle femme peut appartenir à son mari plus complètement que je ne lui appartiens ? Je suis son esclave. Mais il ne voudrait pas te voir souffrir. Est-ce possible ? Et puis légitimer ses enfants, leur donner son nom. Quels enfants ? Et Anna ferma à demi les yeux. Mais Annie, est-ce que tu pourras encore avoir ? Oh, il peut être tranquille, je n'en aurai plus. Mais comment peux-tu répondre de cela ? Parce que je ne veux plus en avoir. Et malgré son émotion, Anna sourit de l'expression d'étonnement, de naïve curiosité et d'horreur qui se peignit sur le visage de Dolly. Après ma maladie, le docteur m'a dit « C'est impossible !» s'écria Dolly, ouvrant de grands yeux et contemplant Anna avec stupéfaction. Ce qu'elle venait d'apprendre confondait toutes ses idées, et les déductions qu'il en tira furent telles que bien des points mystérieux pour elle jusqu'ici lui parurent s'éclaircir subitement. N'avait-elle pas rêvé quelque chose d'analogue pendant son voyage ? Et maintenant cette réponse trop simple à une question compliquée l'épouvantait. « Mais n'est-ce pas immoral ? » demanda-t-elle après un moment de silence. « Pourquoi ? N'oublie pas que j'ai le choix entre un état de souffrance et la possibilité d'être un camarade pour mon ami, car je le considère comme tel, mon mari. Si le point est discutable en ce qui te concerne, il ne l'est pas pour moi. Je ne suis sa femme qu'autant qu'il m'aime, et il me faut entretenir cet amour. » Dolly était en proie aux réflexions sans nombre que ses confidences faisaient naître dans son esprit. « Je n'ai pas cherché à retenir Stiva, pensait-elle, mais celle qui me l'a enlevée, y a-t-elle réussi ? Elle était pourtant jeune et jolie, ce qui n'a pas empêché Stiva de la quitter aussi. Et le comte ? Sera-t-il retenu par les moyens qu'emploie Anna ? Ne trouvera-t-il pas, quand il le voudra, une femme plus séduisante encore ? Elle soupira profondément. « Tu dis que c'est immoral, » reprit Anna, sentant que Dolly la désapprouvait. « Mais songe donc que mes enfants ne peuvent être que de malheureuses créatures destinées à rougir de leurs parents, de leur naissance. » C'est pourquoi tu dois demander le divorce. » Anna ne l'écoutait pas. Elle voulait aller jusqu'au bout de son argumentation. La raison m'a été donnée pour ne pas procréer des infortunés. S'ils n'existent pas, ils ne connaissent pas le malheur. Mais s'ils existent pour souffrir, la responsabilité en retombe sur moi. Comment peut-on être coupable à l'égard de créatures qui n'existent pas ? Pensait Dolly, en secouant la tête pour chasser l'idée bizarre que pour Grisha, son bien-aimé, il aurait peut-être mieux valu ne pas naître. « Je t'avoue que selon moi c'est mal, » dit-elle, avec une expression de dégoût. « Mais songe à la différence qui existe entre nous deux. » Pour toi, il ne peut s'agir que de savoir si tu désires encore avoir des enfants. Pour moi, il s'agit de savoir s'il m'est permis d'en avoir. » Dolly se tut, et elle comprit tout à coup l'abîme qui la séparait d'Anna. Entre elles, certaines questions ne pouvaient plus être discutées. Raison de plus pour régulariser la situation, si c'est possible. Oui, si c'est possible, répondit Anna sur un ton tout différent, de calme et de douceur. Mais on me disait que ton mari consentait. Dolly, ne parlons pas de cela. Comme tu veux, répondit celle-ci, frappée de la douleur profonde qui se peignit sur les traits d'Anna. Ne vois-tu pas les choses trop en noir ? Nullement, je suis heureuse et contente. Je fais même des passions. As-tu remarqué Veselovski ? Oh, le ton de Veselovski me déplaît fort, à dire vrai. Pourquoi ? L'amour-propre d'Alexis en est chatouillé, voilà tout. Et pour moi, je fais de cet enfant ce que je veux, comme toi avec Grisha. Non, Dolly, je ne vois pas tout en noir, mais je cherche à ne rien voir, tant je trouve tout terrible. Mais tu as tort, tu devrais faire le nécessaire. Quoi ? Épouser Alexis ? Crois-tu donc réellement que je n'y songe pas ? Mais quand cette pensée s'empare de moi, elle m'affole, et je ne parviens à me calmer qu'avec de la morphine, dit-elle en se levant, puis marchant de long en large en s'arrêtant par moments. Mais d'abord il ne consentira pas au divorce, parce qu'il est sous l'influence de la comtesse Lydie. Il faut essayer, dit Dolly avec douceur, suivant Anna des yeux, le cœur plein de sympathie. Admettons que j'essaye, que je l'implore comme une coupable, admettons même qu'il consente. Anna, arrivée près de la fenêtre, s'arrêta pour arranger les rideaux. Et mon fils, me le rendra-t-on ? Non ? Il grandira chez ce père que j'ai quitté, en apprenant à me mépriser. Conçois-tu que j'aime presque également, certes plus que moi-même, ces deux êtres qui s'excluent l'un l'autre, Serge et Alexis ? Elle revint au milieu de la chambre en serrant ses mains contre sa poitrine et se pencha vers Dolly tremblante d'émotion sous ce regard mouillé de larmes. « Je n'aime qu'eux au monde, et je ne puis les réunir. Le reste m'est égal. Cela finira d'une façon quelconque, mais je ne veux pas aborder ce sujet. Tu ne saurais imaginer ce que je souffre. » Elle s'assit près de Dolly et lui prit la main. « Ne me méprise pas, ne me méprise pas, je le mérite. Mais plains-moi, car il n'y a pas de femme plus malheureuse. » Et elle se mit à pleurer. Quand Anna l'eut quittée, Dolly pria, puis se coucha. Ses pensées se tournèrent involontairement vers la maison, les enfants. Jamais elle n'avait aussi vivement senti combien ce petit monde à elle lui était cher et précieux. Elle décida que rien ne la retiendrait plus longtemps éloignée et qu'elle partirait le lendemain. Anna, dans son cabinet de toilette, prit un verre et y versa quelques gouttes d'une potion contenant principalement de la morphine. Une fois calmée, elle entra tranquillement dans sa chambre à coucher. Vronsky la regarda attentivement, cherchant sur sa physionomie quelque indice de la conversation qu'elle avait eue avec Dolly. Mais tout ce qu'il y vit fut cette grâce séductrice dont il subissait toujours le charme. Il attendit qu'elle parlât. « Je suis contente que Dolly te plaise, » dit-elle simplement. « Mais je la connais depuis longtemps, c'est une femme excellente, quoique excessivement terre-à-terre. Je n'en suis pas moins très content de sa visite. » Il regarda encore Anna d'un air interrogateur et lui prit la main. Elle lui sourit et ne voulut pas comprendre cette question. Malgré les instances réitérées de ses hôtes, Dolly fit le lendemain ses préparatifs de départ, et la vieille calèche, avec son attelage dépareillé, s'arrêta sous le péristyle. Daria Alexandrovna prit froidement congé de la princesse Barbe et des messieurs. La soirée passée en commun ne les avait pas rapprochés. Anna seule était triste. Personne, elle le savait, ne viendrait plus réveiller les sentiments que Dolly avait remués dans son âme et qui représentaient ce qu'elle avait de meilleur. Bientôt, la vie qu'elle menait en étoufferait les derniers vestiges. Dolly respira librement lorsqu'elle se trouva en plein champ, et curieuse de connaître les impressions des domestiques, elle allait les interroger quand Philippe le cocher se retourna. « Pour des richards, ce sont des richards, » dit-il d'un air moins sombre qu'en partant. « Mais les chevaux n'ont reçu en tout et pour tout que 3 mesures d'avoine, de quoi pas crever de faim. Nous ferions pas cela chez nous. »«
C'est un maître avare, » confirma le teneur de livres.
« Mais ces chevaux sont beaux.
Oui, quant à cela, il n'y a rien à dire, et la nourriture aussi est bonne. Mais je ne sais si cela vous a fait le même effet, Daria Alexandrovna. Me suis ennuyé. »
Et il tourna son honnête figure vers elle.
« Moi aussi, je me suis ennuyé. Crois-tu que nous arriverons ce soir ?
Oh, il faudra bien. »
Dolly, ayant retrouvé ses enfants en bonne santé, ressentit une meilleure impression de son voyage. Elle décrivit avec animation le luxe et le bon goût de l'installation de Vronsky, la cordialité de la réception qui lui avait été faite, et n'admit aucune observation critique.
« Il faut, pour les comprendre, les voir chez eux, » disait-elle, oubliant volontairement le malaise qu'elle avait ressenti. « Et je sais maintenant qu'ils sont bons. »
Vronsky et Anna passèrent à la campagne la fin de l'été et une partie de l'automne, sans faire aucune démarche pour régulariser leur situation, mais résolus à rester chez eux. Rien de ce qui constitue le bonheur ne leur manquait en apparence. Ils étaient riches, jeunes, bien portants. Ils avaient un enfant, leurs occupations leur plaisaient, et cependant, après le départ de leurs hôtes, ils sentirent que leur vie devait forcément subir quelques modifications. Anna continuait à prendre le plus grand soin de sa personne et de sa toilette. Elle lisait beaucoup et faisait venir de l'étranger les ouvrages de valeur que citaient les revues. Aucun des sujets pouvant intéresser Vronsky ne lui restait indifférent. Douée d'une mémoire excellente, elle l'étonnait par ses connaissances agronomiques et architecturales, puisées dans des livres ou des journaux spéciaux, et l'habituait à la consulter sur toutes choses, même sur des questions de sport ou d'élèves de chevaux. L'intérêt qu'elle prenait à l'installation de l'hôpital était très sérieux et elle y apportait des idées personnelles qu'elle savait faire exécuter. Le but de sa vie était de plaire à Vronsky, de lui remplacer ce qu'il avait quitté pour elle, et celui-ci, touché de ce dévouement, savait l'apprécier. À la longue, cependant, l'atmosphère de tendresse jalouse dont elle l'enveloppait l'oppressa, et il éprouva le besoin d'affirmer son indépendance. Son bonheur eût été complet, croyait-il, si chaque fois qu'il voulait quitter la maison, il n'eût éprouvé de la part d'Anna une vive opposition. Quant au rôle de grand propriétaire auquel il s'était essayé, il y prenait un véritable goût et se découvrait des aptitudes sérieuses pour l'administration de ses biens. Il savait entrer dans les détails, défendre obstinément ses intérêts, écouter et questionner son intendant allemand, sans se laisser entraîner par lui à des dépenses exagérées, accepter parfois les innovations utiles, surtout lorsqu'elles étaient de nature à faire sensation autour de lui. Mais jamais il ne dépassait les limites qu'il s'était tracées. Grâce à cette conduite prudente et malgré les sommes considérables que lui coûtaient ses bâtisses, l'achat de ses machines et d'autres améliorations, il ne risquait pas de compromettre sa fortune.
Le gouvernement de Kachin, où étaient situées les terres de Vronsky, de Sviajeski, d'Oblonsky, de Kostitchev et en partie celle de Lévine, devait tenir au mois d'octobre son assemblée provinciale et prononcer à l'élection de ses maréchaux. Ces élections, à cause de certaines personnalités manquantes qui y prenaient part, attiraient l'attention générale. On se préparait à y venir de Moscou, de Pétersbourg, même de l'étranger. Vronsky aussi avait promis d'y assister. L'automne était venu, sombre, pluvieux et singulièrement triste à la campagne. La veille de son départ, le comte vint annoncer d'un ton froid et bref qu'il s'absentait pour quelques jours, tout préparé à une lutte dont il tenait à sortir vainqueur. Sa surprise fut grande en voyant Anna prendre cette nouvelle avec beaucoup de calme et se contenter de lui demander l'époque exacte de son retour. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas, » dit-il, scrutant la physionomie d'Anna et se méfiant de la faculté qu'elle possédait de se renfermer complètement en elle-même lorsqu'elle prenait quelques résolutions extrêmes. « Oh non, je viens de recevoir une caisse de livres de Moscou. Cela m'occupera. C'est un nouveau ton qu'elle veut adopter, » pensa-t-il. Et il eut l'air de croire à la sincérité de cette apparence de raison. Il partit donc sans autre explication, ce qui ne leur était jamais arrivé. Et, tout en espérant que sa liberté serait à l'avenir respectée par Anna, il emportait une vague inquiétude. Tous deux gardèrent une impression pénible de cette petite scène.